cheminer vers l'essentiel. De Edgar Morin, avec Marc de Smet. Lu par Féodor Atkin et
Mathieu Buscato. Le personnage Edgar Morin, comment pourrait-on le définir et où le situer ?
Tout d'abord, je ne me reconnais pas dans des mots tels que sociologue ou anthropologue. Je veux échapper à ce qu'on peut appeler une discipline, une étiquette. Je m'intéresse à ce qui est mystérieux en général et aux mystères que nous portons en nous en particulier.
Cet intérêt porte-t-il davantage sur l'homme, sur la société ou sur l'environnement global ?
Vous posez là une très vieille question. Ces philosophes grecs, qu'on appelle présocratiques, disaient que la philosophie était née de l'étonnement. Ils essayaient de comprendre ce qu'était le cosmos, l'univers. Et puis Socrate est arrivé et a dit « connais-toi toi-même ». J'ai l'impression que nous n'avons pas et que je n'ai pas de moyen d'interroger le cosmos directement. J'interroge donc le mystère du monde à travers le mystère de l'homme. Comme dit Solzhenitsyn, tout ce qui est trop clair n'est pas intéressant. Je m'intéresse donc à ce qui n'est pas clair. Nous sommes ici, maintenant, dans telle société, dans tel monde historique. Cela est étrange et, dans le fond, le fait de s'interroger à ce sujet me meut, me pousse en avant.
Comment existez-vous dans ce biotope ?
Sur le plan, disons, professionnel, j'ai un statut ambigu qui est celui du chercheur scientifique, membre du CNRS, où, en gros, je travaille marginalement. Cette marginalité fait que je me trouve en dehors de certaines réalités, des gros appareils, des machines sociales, des gros pouvoirs, et grâce à cela, je reste plus ou moins en relation avec ce que j'appelle la vie. Mais entendons-nous, je suis partagé entre plusieurs tâches. Vivre, travailler et me cultiver. Je me rends compte sans arrêt que si je vis, je ne peux ni travailler, c'est-à-dire étudier les problèmes qui m'intéressent, ni me cultiver. Si je me cultive, je ne peux pas vivre ni travailler. Et si je travaille, je ne peux ni me cultiver ni vivre. À de rares moments seulement, j'ai l'impression de faire tout cela à la fois, mais c'est tout à fait exceptionnel. La plupart du temps, j'ai l'impression que quelque chose me dévore.
De ce poste d'observation en marge, n'avez-vous pas l'impression de vous retrouver un tant soit peu dans une position de voyeur ?
Pendant la guerre, lorsque je confondais mon destin personnel à une libération qui portait en elle l'espoir d'un autre monde et d'une autre société, je n'aurais pas envisagé de gaieté de cœur d'être le type qui contemple, disons, de sa berge, de son rocher, le flot tumultueux des choses. Je me voulais dans ce flot-là. Mais à partir d'un certain moment, j'ai senti que vitalement, si je voulais vraiment réfléchir à un autre monde, à une autre société, il fallait que je m'arrache à ces appareils, à ces réalités politiques et sociales qui elles-mêmes me rejetaient et me niaient. Si j'y restais, tel qu'en moi-même, elles me détruisaient. Il fallait donc que je me sauve. Comme toujours, les gens qui ne peuvent pas agir sont rejetés vers la réflexion. Inversement, les gens qui ne peuvent pas réfléchir sont rejetés vers l'action. Il y a là un constant va-et-vient. Les grands hommes politiques sont souvent des hommes de science ou des écrivains ratés, et inversement. Tout ce que je portais en moi de plus profond ne pouvait qu'être écrabouillé par la vie politique et sociale telle qu'elle est.
Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans cette réflexion ? Vous-même ou les autres ?
Je crois que nous portons tous en nous, comme disait Montaigne, l'humaine condition. Je lisais dernièrement quelqu'un qui demandait « Mais qu'ai-je de commun avec Hitler, avec Mengele, avec tous ces monstres ?» Je crois que nous avons tous quelque chose en commun avec ces monstres, mais aussi avec des saints, avec les héros, avec Gandhi, avec Jésus, avec Bouddha, avec Assurbanipal. Nous renfermons des virtualités de tout ça. Bien entendu, certaines virtualités restent de purs fantasmes. Elles n'existent que dans nos rêves, la nuit, refoulées. Quelques autres s'expriment. Je suis un microcosme, un mini-univers. D'abord, je suis un microcosme de la culture qui m'a formé, et puis, si je gratte un peu, je découvre que je suis un microcosme de tous les êtres humains, comme chacun d'entre nous. Pour ma part, je n'arrive pas à mettre dans des cases tout cela, moi et les autres, moi et le monde, moi et la société.
Tire-t-on des lois de cette observation ?
Non, parce qu'aujourd'hui, les lois n'ont plus grande importance. La science s'est rendue compte que les lois étaient trop limitées, trop générales, et qu'une partie de la réalité leur échapperait toujours. Dès qu'on entre dans le profond des choses, on ne peut plus déterminer ni étiqueter. Cela étant dit, je suis convaincu que les sciences humaines, domaine où je me meus, n'existent pas encore en tant que science. La science, c'est quelque chose qui avance avec beaucoup d'esprit critique et beaucoup d'imagination, mais les savants défendent toujours leurs idées en luttant contre les données et les expériences qui les inquiètent.